La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, nous allons évoquer l'ouvrage de Christine Baron, Droit de femme, femme de droit, au prisme du récit, littérature, cinéma, série, aux éditions Le Lys Bleu. Alors, Christine Baron est professeure de littérature comparée à l'université de Poitiers dans le cadre de sa carrière universitaire. Nous serons d'ailleurs au cours de cette émission en liaison avec Sandra Travers de Fautrier qui nous fait l'amitié d'être parmi nous pour sa chronique tout à l'heure, mais aussi pour débattre parmi nous de ce livre de Christine Baron. Je rappelle que Christine Baron est l'autrice de plusieurs ouvrages, je ne vais pas tous les citer, mais tout de même les deux derniers, Le tribunal du récit en 2023 et La littérature à la barre en 2021. Alors, bonjour donc Christine, vous êtes une éminente représentante du mouvement droit et littérature et vous êtes directrice du FORELIS, du Centre Formation et Représentation Littéraire, Linguistique, Images et Scènes, vous mobilisez dans votre travail autant les œuvres littéraires, les références philosophiques, les débats juridiques et les scènes judiciaires.
Bonjour Denis, je vous remercie de cette présentation. Néanmoins, je ne suis pas directrice du FORELIS, mais membre de ce centre de recherche, dont la directrice est Charlotte Krauss, ma collègue comparatiste également.
Merci de cette précision, fort utile en l'occurrence. Alors, Christine Baron, nous allons évoquer votre ouvrage. Et d'ailleurs, première question que je voulais vous poser, moi qui connais assez bien vos travaux, on trouve d'ailleurs que ce corpus, vous avez très nettement élargi votre corpus de référence. Il n'y a pas seulement la littérature, il y a aussi les films, le cinéma, mais aussi les séries, et on sait que les séries, il faut du temps pour les consulter. Alors, comment avez-vous procédé, votre méthodologie, dans cette quête de recueil de la documentation ?
Je dirais que c'était une méthodologie assez empirique, c'est-à-dire que je me suis intéressée à des thèmes, puisque mon livre comporte plusieurs parties, une partie consacrée au traitement médiatique et juridique des femmes criminelles, par exemple, une partie très importante aux violences faites aux femmes, une partie également consacrée aux acquis juridiques. Et là, je me suis rendu compte, en fait, c'est parti paradoxalement du constat d'un grand vide. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les droits des femmes, par exemple le fait que le droit de vote ait été reconnu aux femmes en France assez tardivement d'ailleurs, en 1946, il y avait véritablement déficit de représentation.
Dans les films, séries, etc.
Alors, dans les films, ce sont généralement, et d'ailleurs c'est vraiment dommage, des films ou des ouvrages de femmes qui mettent en relief ces éléments d'histoire. Je pense notamment au film de Sarah Gavron sur le droit de vote en Angleterre, où les suffragettes ont joué un rôle extrêmement important dans ce processus de transformation du droit. Et peu à peu, au fond, en m'intéressant à telle ou telle question, je pense au rôle des femmes, par exemple, dans les organisations criminelles. Je suis tombée, entre guillemets, sur des séries. Et alors là, j'ai fait ce qu'on appelle du binge-watching, c'est-à-dire que j'ai consacré plusieurs heures à regarder, à voir quel était le traitement spécifique concernant les femmes par rapport à des héros masculins dans des situations similaires.
On y reviendra pour les femmes mafieuses, si je peux dire. Mais alors simplement, quand même, vous dites que vous avez un déficit de sources en termes de représentation concernant les droits des femmes dans l'histoire récente.
Oui, dans ma première partie, en tout cas, c'est ce qui m'a frappée. Le seul des droits qui a été représenté, je dirais, de manière massive, c'est la question du droit à l'avortement, l'IVG. Donc la loi Veil ou la loi Roe Wade aux États-Unis ont donné lieu, l'une et l'autre, à un certain nombre de représentations.
Mais avant, c'est intéressant parce qu'on dit souvent que la littérature anticipe les évolutions du droit. Est-ce que c'est avant cette évolution jurisprudentielle ou législative, cette politique, disons-le carrément, que effectivement des femmes ont pris la parole pour défendre le droit à l'avortement? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
Alors très peu. Pour ce qui concerne la France. Nous avons tous en mémoire peut-être ce passage épouvantable dans Le Voyage au bout de la nuit de Céline, où on a une scène d'avortement avec une jeune femme qui meurt littéralement.
Dans une mare de sang, c'est terrible.
Voilà, et qui dit, dont la seule parole est « n'en parlez pas aux voisins et à
honte,
ma famille, parce
honte.
Que ça va faire un terrible scandale, c'est la honte ».
C'est une des scènes les plus fortes de Voyage au bout de la nuit, vous avez raison.
Oui,
dans le souvenir que j'en ai.
Alors aux États-Unis, bon là je n'ai pas vraiment... je sais qu'il y a actuellement une très bonne spécialiste de ces questions qui est Clara Robison, qui est en train d'écrire une thèse sur la littérature avant la loi Roe v. Wade, ouais. Qui montre qu'il y a beaucoup de romancières qui s'y sont intéressées et d'accord. qui montre qu'une femme qui va chercher de l'aide, entre guillemets, invoque souvent une situation de faiblesse, invoque parfois un viol, que ce soit vrai ou faux, mais en tout cas il existe une littérature avant.
Je tiens pour revenir un instant à Céline, on ne peut pas dire que Céline dans cette scène qui doit faire deux pages du Voyage au bout de la nuit revendique une liberté d'avortement, hein. C'est
absolument
un constat
pas.
D'une crudité, d'une violence incroyable, sans doute qu'il a lui-même observé dans les quartiers où il habitait, mais il n'y a pas du tout une attente de réforme législative ou de réforme de quelle qu'elle soit.
C'est non, absolument
une scène
pas.
Parmi d'autres,
oui,
on dirait.
Oui, tout à fait. C'est purement un constat. Et de la même manière, je dirais un roman qui en traite assez massivement, qui est L'œuvre de Dieu, la part du diable, de John Irving, ne prend pas parti. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. On parlait tout à l'heure de la... pardon pour le gros mot, de la problématicité du rapport entre littérature et droit. C'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est qu'au fond, il n'y a pas de réponse, mais on va confronter des situations, des points de vue, des cas. De cela, c'est au lecteur de tirer les conclusions. Mais il n'y a à aucun moment, au fond, une prise de position du romancier.
Alors, dans votre ouvrage, Christine Baron, il y a quatre grandes parties, oui, c'est cela, les femmes et les droits. Vous évoquez notamment la loi Veil et le parcours des combattantes dans la conquête de la liberté de l'avortement. Vous avez toute une partie sur les victimes devant la justice, notamment la violence physique et sexuelle dont on va parler maintenant. Et vous avez une troisième partie sur les femmes criminelles devant la justice, ces femmes qui tuent, comme vous l'évoquez, les serial killers. Vous évoquez tout à l'heure d'ailleurs les mafiosas. Et puis enfin, les femmes de loi. Et vous concluez l'ouvrage par un entretien avec la magistrate Gwenola Jolicoz, tire des conclusions relatives, notamment, on va en reparler tout à l'heure, sur le contrôle coercitif. Alors, simplement, dans la deuxième partie, vous évoquez ces plaignantes devant la justice de violences physiques et sexuelles. Et en particulier, j'étais très intéressé par l'interprétation que vous donnez de l'œuvre de Neige Sino. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer votre lecture de cet ouvrage ?
Alors, le cas de Neige Sino est très intéressant parce qu'au fond, elle décrit sa propre situation.
Vous rappelez le titre de son ouvrage ?
Triste Tigre.
Triste Tigre.
Triste Tigre, c'est le nom qu'elle donne à son violeur, qui est son beau-père, qui abuse d'elle régulièrement entre 9 et 12 ans. Et puis, les années passant, devenue majeure, elle choisit de porter plainte. Et ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que le violeur, au fond, demande d'une certaine manière l'assentiment à sa victime. Il lui dit « mais ça te plaît en réalité, c'est toi qui es demandeuse ». Donc il y a en même temps l'instauration d'un lien qui est un lien pervers, totalement. Donc c'est ce qui m'a intéressée. Ce qui m'a intéressé également par ailleurs, du point de vue de l'articulation littéraire, c'est le rapport au conte de fées, dont vous parlez d'ailleurs dans votre propre travail sur le viol, le déni du viol. Vous évoquez le petit chaperon rouge, vous évoquez les contes merveilleux. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que Neige Sino prend distance finalement par rapport à ce qui lui est arrivé, par rapport à ses propres affects, en projetant son histoire sur celle d'une princesse qui serait abandonnée dans une forêt, qui serait une espèce de Blanche-Neige dont
l'imaginaire, de
voilà,
de fait.
Il y a une projection imaginaire qui lui permet à la fois de prendre distance avec sa propre mésaventure et de la raconter.
Ce qui est de tout à fait étonnant dans le cas d'Eshino, c'est que alors il y a toute une phase où elle se demande si elle va pouvoir porter plainte vis-à-vis de son beau-père. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, c'est qu'elle parvient à porter plainte après avoir travaillé avec sa mère, femme de cet homme, une plainte conjointe, souvenez-vous de ce point-là. Donc elles arrivent au commissariat, c'est deux femmes qui arrivent au commissariat, la mère et la fille. Donc la fille a réussi à faire ce travail avec sa mère pour la déconnecter, si je peux dire, de cet homme-là, ce qui est déjà un travail implicite, préalable. Comme ça, la mère peut effectivement se conjoindre à cette plainte-là. Est-ce que vous avez été frappé par cette démarche de plainte de Eshino, vous aussi ?
Oui, parce que vous l'avez dit très justement tout à l'heure, au fond, pour qu'une plainte soit entendue, il faut qu'il y ait une oreille attentive. Et je parlerai, en ce qui concerne la mère et la fille, en l'occurrence, plutôt d'une sorte de co-émancipation et de prise de conscience conjointe. Eshino se pose aussi la question de la pénalisation des effets de cette plainte. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que mon beau-père va faire de la prison ? Il fait de la prison. Et il y a un autre fait qui m'a marqué dans ce roman, que je trouve terrible, c'est que lorsqu'il rentre de prison, le village l'accueille très très bien. Alors que Eshino, et c'est très fréquent dans les cas d'inceste, c'est celle par qui le scandale est arrivé. Donc elle a tort. Les villageois lui tournent le dos, et quand elle dit « mais vous ne lui avez pas tourné le dos à lui, mais à nous, il ne nous a rien fait », répondent-ils. Et donc c'est très frappant parce que
le village ne se sent pas solidaire de la victime.
Absolument pas, absolument pas.
Mais en même temps, je fais l'avocat du diable, si je peux dire. Est-ce que ce n'est pas aussi une marque de la réinsertion, de la réhabilitation du coupable dans la société ? Est-ce qu'il n'a pas aussi droit à cette réinsertion ? La peine a une vocation réhabilitative en droit pénal.
Oui.
Alors, la victime le comprend très mal, parce que ça, on lui tourne le dos. Mais lui, peut-être, il y a peut-être ce droit-là, et la société lui donne ce droit. Et le droit aussi.
Bien sûr, ce qui est tout à fait licite.
Mais la contradiction de valeur entre les deux est frappante dans le cas d'Eshino. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, le village l'accueille, et effectivement, elle perçoit cet accueil du village comme étant une insulte qui lui est faite indirectement.
Et un désaveu de sa démarche.
Et
c'est très, très fréquent, je pense, là, dans le domaine des abus sexuels, au film Grâce à Dieu. Lorsqu'une mère dit à son propre enfant qu'il a été abusé, ce qui est tout de même énorme, mais toi, de toute façon, tu es, je cite, pardon, tu as toujours été un fouteur de merde. Il a fallu que tu parles. Voilà.
Mais c'est là
Sandra, à travers de
nous permettre que, effectivement, droit et littérature est un espace où les conflits de valeurs sont véritablement mis en lumière. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un conflit de valeurs sociales, en fait. Dans une société, qu'est-ce qui a la priorité ? Qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est faire penser que tout va bien ? Est-ce que c'est dénoncer le scandale ? C'est un vrai conflit de valeurs. Et ça, chaque fois, en droit et littérature, qu'il y a cette conjonction, c'est toujours un conflit de valeurs.
Et je pensais à la définition que donne Jacques Rancière de la démocratie, c'est précisément cela. Ça n'est pas le consensus. C'est le dissensus.
Ricoeur dit la même chose. Le conflit fait partie de la démocratie. Et heureusement, il n'y a pas de point d'arrêt. Et c'est un travail permanent que le droit fait, que la littérature fait aussi, que la démocratie orchestre par ailleurs. Alors, vous évoquez aussi Martha Nussbaum. Que pensez-vous de cette thèse de Martha Nussbaum qui consiste à dire il faut que les juges lisent la littérature, ça les rend plus empathiques. Quelle est votre réflexion là-dessus ? Elle donne beaucoup d'exemples de jurisprudence Cour suprême américaine.
Alors, je m'abrite très volontiers derrière ce que lui a dit l'un de ses étudiants, qu'elle cite d'ailleurs dans...
L'art d'être juste.
L'art d'être juste.
Poetic justice.
Oui. Et qui lui dit, mais vous savez, lire le roman de Foster Morris n'incite pas nécessairement à cesser d'être homophobe.
Alors, rappelez ce que c'est ce roman.
Alors, Foster écrit un roman qui raconte l'histoire de l'amitié très exaltée de deux jeunes gens. L'un d'entre eux assume son homosexualité et va donc continuer sa vie. À un moment donné, ils se séparent et l'autre fait un mariage de convenance et n'accepte jamais de reconnaître cette tendance qui est en lui. Il se retrouve, il dialogue et ce roman qui a été écrit dans les années avant la Deuxième Guerre mondiale, n'est publié que dans les années 70. C'est-à-dire que Foster n'ose pas le publier en Angleterre, et on le sait bien à travers l'affaire Oscar Wilde, l'homosexualité est un délit, alors que dans la loi française, il n'existe rien depuis la Révolution française qui pénalise l'homosexualité. Et donc, je dirais que l'étudiant qui renvoie à Martha Nussbaum le fait que le récit ne crée pas nécessairement de l'empathie pour le personnage principal est très, très puissant. Parce que, en effet, un récit peut jouer dans les deux sens. Le lecteur est libre de son interprétation.
C'est à cause de le présupposé de Martha Nussbaum au début. Elle focalise tout sur la dimension émotive. Que, grosso modo, ce n'est pas tellement l'expérience de pensée, c'est une expérience émotive qu'à travers le roman, le lecteur fait. Or, c'est un présupposé qui n'est pas forcément valide. Lire un roman, ce n'est pas forcément tout à coup prendre la place de tel personnage, être ému. Ce qui va mouvoir quelqu'un, pour rester dans l'émotion, ce qui va mouvoir quelqu'un, ça peut être tout à fait autre chose.
Oui, justement, parce que elle donne beaucoup l'exemple dans ses jurisprudences à la fin de son ouvrage de ce juge américain qui se met à la place du détenu qui perd dans une fouille de sa cellule des objets personnels, une Bible, un miroir, une lettre, etc. Et donc c'est se mettre à la place d'eux pour conclure effectivement à la violation d'un droit fondamental. Donc on retrouve universel, quelque part, dans le singulier. Mais est-ce que la littérature aide à cela? C'est un des facteurs qui peut aider, effectivement. Moi, je pense que Victor Hugo, Badinter le dit dans ses travaux Les Misérables et surtout Les Jours d'un condamné, a contribué, à mon avis, à développer l'idée de l'abolition de la peine de mort dans certains dans les jurés de l'époque et peut-être à conduire à l'abolition par la suite. Dans la littérature, a joué un rôle pré-abolitionniste, en quelque sorte, de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, de politique, les courants politiques, les courants démocratiques, etc.
Et même si on reste dans le registre de l'émotion peut jouer, par exemple, dans le récit d'un crime, tout autant du côté de l'empathie pour la victime que et de la détestation donc pour l'agresseur que de l'inverse.
La fascination pour le mal.
La fascination pour le mal, ou bien dans le cas de l'empathie extrême pour la victime, cela peut conduire à ce que vous appelez, Denis Salas, le populisme pénal, par exemple.
Et ça suppose qu'il y ait de l'identification dans l'acte de lecture. Or, ce n'est pas une loi.
Alors, vous évoquez, Christine Baron, l'empathie pour l'auteur. Et vous évoquez aussi dans votre ouvrage le roman de La petite femelle de Genada, qui est une relecture d'un fait criminel des années 50 ou 60, je me souviens.
Oui, c'est en 1953.
Qu'est-ce que vous pensez de cette relecture par la littérature d'un fait criminel comme celui-là?
Alors, ce fait criminel a été marqué par un environnement médiatique très hostile à la prévenue, Pauline Dubuisson, qui la présentait comme un monstre froid, comme une personne épouvantable, et notamment la réputation qu'elle avait d'avoir fricoté avec l'occupant. Collaboration horizontale, comme on dit, l'a profondément desservie.
Que vous discutez d'ailleurs dans le livre.
Et donc ça a été un des éléments périphériques du procès qui a conduit à ce lynchage médiatique. Et donc l'un des objectifs de l'ouvrage de Genada, c'est une réhabilitation de la figure de Pauline Dubuisson et une réhabilitation qui se fonde sur une enquête très précise, parce qu'il y a déjà eu des ouvrages de fiction autour de la figure de Pauline Dubuisson. Je pense notamment au roman de Jean-Luc Seigle en 2014 qui s'intitulait « Je vous écris dans le noir », qui est le début de la lettre que Pauline Dubuisson, incarcérée, écrit à ses juges pour leur dire qu'elle va faire une tentative de suicide et qu'elle n'accepte pas d'être jugée avec partialité. L'objectif de Philippe Genada est au fond de faire ressurgir une figure beaucoup plus complexe de femme qui est une figure qui ne cadre pas avec son époque. C'est-à-dire que Pauline Dubuisson est une jeune femme émancipée qui a refusé le mariage avec Félix Bailly parce que celui-ci lui proposait de devenir simplement une femme de médecin qui tenait le secrétariat, qui faisait entrer les clients, alors qu'elle-même a fait des études de médecine, elle souhaitait exercer, être indépendante. Et d'autre part, elle ne s'est pas présentée devant le jury, je dirais, avec humilité. C'est-à-dire qu'elle a eu le tort de ne pas pleurer, de ne pas paraître regretter son geste.
Mauvaise victime, en l'occurrence.
C'est une mauvaise victime.
Enfin, en l'occurrence, enfin, une mauvaise autrice.
Une mauvaise autrice,
mauvaise criminelle.
Il y a aussi, de l'autre côté, des victimes idéales. Hein. Par exemple, voilà, je parlais de... Bon, on va pas revenir sur la partie précédente.
Mais simplement, on sait qu'en droit, il y a cette procédure des cold cases. On va réexaminer des cas qui ont été non élucidés. On les ressort, on fait des enquêtes, etc. Jenada en fait une sorte de cold case romanesque. Il réexhume une affaire judiciaire jugée, mais au prix d'une décontextualisation totale, au prix aussi d'un récit romanesque qui va à contre-courant d'une vérité judiciaire. Comment vous voyez cette pluralité des récits? Parce que là, les deux récits sont antagoniques l'un par rapport à l'autre. La décontextualisation me pose problème quand même. Parce que est-ce qu'on peut relire le cas de Pauline Dubuisson au regard de ce que nous savons aujourd'hui de ce qu'est le droit des femmes, de leur droit dans le procès, etc. Il y a quand même une limite à cela. Mais la littérature peut effectivement ouvrir des possibles, comme dirait Sandra.
Alors, cela dit, il ne se réclame pas de la fiction, Jenada.
Il
ne se réclame pas de la fiction.
C'est un plaidoyer post-vérité judiciaire.
Voilà, c'est un plaidoyer, comme a pu l'être le pullover rouge pour l'affaire Ranucci.
C'est une contre-enquête.
C'est une sorte de contre-enquête.
Tout
à fait.
D'accord.
Là, c'est pas des cold cases, puisque il y a eu une solution. Donc, on est dans un deuxième procès. L'autorité de la chose jugée est mise de côté.
Donc, il fait une contre-enquête destinée à réhabiliter Pauline Dubuisson. Voilà. C'est ça l'idée.
Mais c'est ce qui s'est passé pour Violette Nozière.
Exactement.
Maintenant, on sait très très bien que Violette Nozière, jugée aujourd'hui, le fait qu'elle soit fardée, etc., tout de suite, on aurait compris qu'elle était victime d'inceste. Alors qu'à l'époque, on y a vu une allumeuse.
Alors, la contre-enquête ou le récit littéraire fait apparaître des éléments non évidents dans le premier procès pour revisiter notre jugement moral sur l'affaire elle-même, pas forcément dans la perspective d'une réhabilitation.
Et puis ça permet de mesurer le temps qui est passé et ce qui a changé. C'est aussi important.
Il y a également un autre fait. On parlait tout à l'heure de l'après et du pardon qu'accorde la société. Dans le cas de Pauline Dubuisson, qui est partie exercer le métier, elle n'avait pas encore son diplôme de médecine, donc elle a travaillé dans un dispensaire, en dispensant des soins infirmiers à Essaouira. À cette période, en fait, elle espère être oubliée. Elle a repris le nom de sa mère. Et il se trouve que d'abord paraît le film La vérité de Georges Clouzot, avec Brigitte Bardot dans le rôle principal. Donc il la présente sous un jour particulièrement sulfureux, d'une part. D'autre part, à l'occasion de l'apparition du film, on s'intéresse à nouveau à l'affaire. Des photos d'elle paraissent dans les magazines. Ces magazines traînent dans la salle du dispensaire à Essaouira et elle est immédiatement identifiée. Et donc ça recommence. Voilà. Le cauchemar recommence, la société ne pardonne pas. Elle était fiancée à quelqu'un qu'elle aimait, elle espérait refaire sa vie et on lui retire cette possibilité. Donc elle va se donner la mort, effectivement, après plusieurs tentatives dans les années 60.
Il y a les femmes criminelles et il y a aussi les femmes victimes de la part d'hommes violents, qu'on appelle maintenant des féminicides. Est-ce que ce nouveau concept vous paraît avoir un avenir dans le droit? Il n'est pas vraiment intégré dans le droit positif, il est peut-être en passe de l'être. Est-ce que les représentations que nous avons du féminicide, selon vous, peuvent permettre un jour de permettre cette entrée dans le champ du droit?
Alors c'est très complexe le féminicide, parce que si l'on considère ce qui se passe notamment en Amérique latine, à Ciudad Juárez, il est évident que là il s'agit de féminicide, c'est-à-dire que les femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Cette question se pose de manière très problématique. J'avais assez récemment un entretien avec Anne Bouillon qui me disait, par exemple dans le cadre
d'un couple lesbien... Anne Bouillon, l'avocate
qui a écrit récemment une série de témoignages sur les personnes qu'elle a vues défiler dans son cabinet. Et elle lui disait finalement, dans le cadre d'un couple lesbien, s'agit-il d'un féminicide ? Néanmoins, elle emploie ce terme comme un terme opératoire pour désigner les crimes de femmes qui se caractérisent par le fait que si on n'avait pas affaire à des femmes, peut-être le crime n'aurait pas été commis. Voilà. Alors c'est très vaste, hein, c'est très, très imprécis, et d'où la difficulté à faire entrer dans le droit ce terme.
Vous évoquez qu'il y a un droit minimal, des circulaires, des textes, peut-être soft law, qui permettent effectivement de considérer qu'il y a peut-être une première démarche d'entrée dans le droit. Oui. Mais ce n'est pas encore, en tout cas en France, ce n'est pas encore déterminant. Peut-être que ça va.
Est-ce que ce n'est pas lié finalement à toute relation dans laquelle un sujet devient la chose possédée ?
Si.
Est-ce que c'est pas ça finalement ?
On parle d'un crime de propriétaire.
De propriétaire, oui, parce que très souvent c'est ça. Enfin, on ne supporte pas qu'elle parte, on ne supporte pas qu'elle soit indépendante. Enfin, c'est ma chose.
Oui, c'est ça. Alors effectivement, les féminicides, je dirais que on les emploie d'ailleurs de manière spontanée dans le cadre de crimes ou de maltraitance de couple, hein, lorsque l'homme considère que la femme est son objet, sa chose. Comme dans le cas, par exemple, de ce qu'on appelle le gaslighting, que j'évoque.
Justement, le gaslighting, c'est important parce que c'est un concept qui est familier du monde anglo-saxon. Depuis le film de Cukor de 1944, qu'on a traduit en français par « hantise », et alors que le titre, c'est « gaslight ». Donc, le mot déjà existait. Donc, dites en quoi consiste le gaslighting pour que les auditeurs se repèrent un peu mieux là-dessus ?
Alors, c'est le fait de baisser l'intensité de la lumière dans une pièce, ce qui en soi n'est pas très parlant.
Littéralement.
En ce qui concerne le rapport entre deux personnes, c'est le fait de placer la personne, en général une femme, avec qui l'on est en couple, dans une situation de dépendance qui la conduit à douter de sa propre raison. Dans le film Gaslight,
c'est la folie,
par exemple. Voilà. De la instiller à l'autre.
Pour folle, ouais.
Voilà, l'idée qu'elle est folle, qu'elle perd la raison. Par exemple, le mari dissimule des objets dans un qui appartiennent à sa femme et lui dit « mais tu les as perdus, tu perds la raison ». Alors, il y a une autre manière de rendre fou qui est ce que Gregory Bateson appelle la double contrainte.
Double bind.
Le double bind. Par exemple, vous avez un texte, il est interdit de lire ce texte. Voilà, ça c'est donc placer l'autre en situation de double contrainte, c'est vraiment attenter à au fond creuser dans sa personnalité, dans son moi, l'atteindre très profondément dans l'estime de soi-même. C'est ça le gaslighting.
Est-ce que c'est différent de ce qu'on appelle maintenant le contrôle coercitif ?
C'est très proche, c'est-à-dire qu'il y a des signaux du contrôle coercitif qui commencent d'ailleurs à être étudiés, peut-être en vue d'une judiciarisation de ces comportements.
Il y a une jurisprudence en cours, la Cour d'appel de Poitiers, avec Gwenola Julikos qui anime cette jurisprudence.
Hein. Et qui a rendu d'ailleurs un premier jugement pour gaslighting en décembre 2024, je crois. C'était une première en droit français pour une personne qui était alors littéralement séquestrée. Et les signaux sont toujours les mêmes. Et ça m'a fait penser, puisque j'ai un corpus cinématographique très important, un film qui ne figure pas dans mon livre, et qui est L'amour et les forêts. Et c'est vraiment typiquement une histoire de contrôle coercitif, puisqu'il s'agit d'un homme qui épouse une femme qui a une sœur jumelle. C'est Virginie Efira qui joue le rôle principal. Il l'a conduit à déménager de l'endroit où elle vit plus ou moins en symbiose avec cette sœur jumelle. Il s'agit de la séparer de son environnement. Elle pense que c'est une mutation qui lui a été imposée. En fait, c'est lui qui a demandé à muter. Elle le découvre tardivement et peu à peu, en fait, tout se resserre. Elle n'a plus le droit de sortir en retard de son travail, elle n'a plus le droit d'avoir des amis, de faire des courses. Elle est harcelée de SMS et de coups de téléphone. Et il y a un épisode très intéressant dans le film, c'est le moment où elle rentre, elle trouve son mari prostré. Les enfants, les deux enfants qui sont nés de cette union sont affolés. Ils lui disent « tu sais, papa n'est pas bien ». Et il lui explique qu'il a entendu une émission de radio au cours de laquelle on dénonce précisément ce comportement de contrôle coercitif. Donc il prend conscience en fait, de son propre comportement. Le spectateur pense qu'il y a une lueur d'espoir. Elle est très courte durée parce qu'il regarde sa femme de façon haineuse et lui dit « En fait, c'est de ta faute. Tu ne m'as pas stoppé, tu m'as laissé devenir comme ça, c'est que tu ne m'aimes pas suffisamment. »
La faute est toujours celle de...
Voilà, donc c'est toujours la faute de l'autre. On n'en sort pas.
Est-ce que cette affaire de gaslighting ou de contrôle coercitif, ce n'est pas aussi une évolution de notre société? Je prends l'exemple de certaines familles. Moi, ayant été juge des enfants, j'ai eu souvent des familles africaines où des femmes pouvaient faire appel en cas de persécution, de mauvaise entente ou d'agression parfois de leur mari, à un conseil de famille, à une famille élargie, à un oncle, à un sachant, celui qui est au-dessus du mari en question, qui va trancher, qui va examiner lui, qui va entendre les parties. Donc il y avait des ressources familiales dans la famille élargie qui permettaient de régler en interne le conflit, et soit par une séparation, soit par autre chose. Là, c'est le pénal qui est en situation de jugement. Est-ce que le pénal est le bon moyen? C'est une question que je me pose pour trancher ces litiges. Peut-être que c'est inévitable, parce que nous sommes des sociétés individualistes et que ces ressources d'une famille élargie n'existent plus. Mais en même temps, je m'aperçois que, en tant que juriste, il faudrait se poser la question. Pendant très longtemps, le divorce a été déconflictualisé. On a cherché l'amiable, on a cherché le divorce par consentement mutuel. On n'a pas voulu multiplier les constats d'adultère dans l'histoire du divorce. Louis Carbonnier a milité pour diversifier le divorce, pour pacifier peut-être les couples en conflit par des moyens non pénaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne repénalise pas les conflits conjugaux par le biais de ce gaslighting ou de ce contrôle coercitif? Est-ce que c'est une évolution de notre société, tout simplement? Et est-ce qu'il ne faut pas la discuter un petit peu?
Oui, alors il peut se trouver dans l'entourage de la personne quelqu'un qui joue le rôle de tiers. Ouais, et tiers. François Host le dit de manière très juste. La justice, qu'est-ce que c'est? C'est le tiers, précisément. Or, le gaslighting
là,
consiste...
Là, le tiers, c'est le juge, pénal, en l'occurrence. Oui.
Gaslighter, c'est enfermer quelqu'un dans une relation duelle, qui est une relation de pouvoir à l'état pur. Et en effet, la famille élargie, et non pas la famille nucléaire, la famille élargie permettait cela. C'est-à-dire que parfois... la belle-mère, la sœur, le beau-frère disaient « Bon, là, stop, tu exagères », et pouvaient contribuer à pacifier la relation.
Ou parfois pas, parfois c'était un échec.
C'est-à-dire à condition que la famille elle-même ne soit pas nourrie de représentations qui font, parce que c'était souvent le cas pour les femmes, un article sur le devoir conjugal, par exemple, où c'était la famille elle-même qui disait « Bah oui, tu es mariée, donc... Voilà. Donc, il ne faut pas non plus que la famille soit une caisse de résonance de la représentation sociale.
Ça peut être le risque, effectivement.
Il y a d'ailleurs, dans L'amour et les forêts, une scène de viol conjugal qui est terrible.
Absolument. Et donc, c'est important que la loi intervienne aussi. Enfin, sur beaucoup de choses, soi-disant à l'amiable ou autre, je me dis, bon, la loi ne sort pas grandie, alors que faire référence à la loi... Ça peut être nécessaire à certains moments.
Dans certains cas, c'est indispensable.
Oui. C'est un point de repère.
La loi pénale, en l'occurrence, pas la loi civile. On peut aussi imaginer que la loi civile soit... Alors, vous terminez votre ouvrage par un entretien avec la présidente Gwenola Joly-Cauze. Vous évoquez avec elle en particulier... ces femmes de loi qui aujourd'hui sont majoritaires en juridiction, mais pas dans les postes les plus représentatifs ou les plus élevés dans la hiérarchie. Alors qu'est-ce que vous tirez de cet entretien, Christine Baron, comme enseignement sur le rapport entre droit et littérature?
D'abord, j'en tire la lenteur de la société à bouger sur certains points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer, en France en tout cas, que l'égalité juridique entre femmes et hommes est... réalisé. Néanmoins, qu'en est-il réellement? La parité, par exemple, dans les fonctions judiciaires, on voit bien que ce ne sont pas les premières présidentes qui sont les plus nombreuses dans la profession. La parité sur le plan des salaires, il était question d'un horizon à 2035 pour la parité. Si on continue au rythme actuel, ça sera plutôt 2060, voire le prochain...
Pour les magistrats, je ne suis pas certain. Il y a une grille indiciaire qui est valable pour tous les postes. Mais bon, il y a peut-être une perspective.
Oui, dans la fonction publique, c'est différent.
Oui, mais il faut peut-être penser vous avez raison, au poste hiérarchiquement élevé, oui. Qui là sont, effectivement, il y a un plafond de verre qui existe.
Néanmoins, nous n'en sommes plus tout à fait aux quolibets qui ont accueilli les premières femmes, oui. Dans la fonction, oui. Notamment la première femme juge, Charlotte Béquignon-Lagarde, oui. En 1946, ou si on remonte un petit peu dans le temps, également la première avocate, lorsque le prévenu dit « attendez, je vais être défendu par une bonne femme, non, je veux un vrai avocat ».
L'office viril de l'avocat et du juge.
Voilà, on n'en est plus là, certes. Néanmoins, Gwenola Jolicoz, dans l'entretien qu'elle m'a généreusement accordé, me disait qu'il y a toujours de petites remarques lorsque une magistrate est enceinte sur la désorganisation que cela entraîne au tribunal. Tout cela reste quand même profondément ancré dans les mentalités.
Ouais. J'invite les auditeurs à regarder un entretien que j'avais fait avec Simone Rosès, la première magistrate qui était premier président des cours de cassation, qui racontait précisément les difficultés qu'elle a eues dans les années 50-60. 60, oui, elle était magistrate en 45, donc dès l'origine. Et les difficultés qu'elle a eues, alors qu'elle était elle-même, avait des enfants, une famille, à suivre son mari, alors qu'elle était magistrate, et les remarques qu'on lui faisait, qui fait écho à ce que vous venez de dire, relativement à sa maternité en particulier, qui désorganisait effectivement largement le service.
Oui, Louise Weiss disait, parce qu'il y a aussi un humour féministe, il ne faut pas l'oublier, qu'elle disait « Ne vous inquiétez pas, messieurs, même si nous accédons aux mêmes fonctions, vos chaussettes seront reprisées.
» Est-ce que je peux me permettre juste une petite remarque ? On parlait des femmes enceintes. Je me posais la question, il y a des personnages de femmes qui manquent, ou tout au moins qui ne sont pas... Alors c'est certainement dû au fait qu'il y a un vide de la représentation, mais puisque les femmes ont toujours été réparties en mère et pute, enceinte, oui. Et pute, je me posais la question de la prostituée.
Ah. Oui.
Qui généralement dans les films c'est la femme généreuse, gentille, enfin c'est pas du tout la réalité de la prostituée qui est une pauvre femme exploitée, et la mère qui aujourd'hui pose un vrai problème puisque c'est plus l'effacement par le nom, c'est l'effacement tout simplement puisqu'elle est réduite à un ventre ou à du matériel génétique. Est-ce qu'il y a des représentations, est-ce qu'il y a une réflexion sur la mère, sur la prostituée, qui sont quand même des personnes de femmes violemment atteinte ?
Oui. Alors, il y a tout un débat actuellement concernant la prostitution. Je pense au livre assez récent, dont je ne parle pas d'ailleurs dans mon ouvrage, de Bébé Melchior Cadior, qui s'intitule « Balance ton corps ». Et où elle explique que pour elle, la prostitution n'est nullement une aliénation. Qu'elle a choisi d'être prostituée, elle est... Et elle dit, au fond, voilà, si je travaillais 8 heures par jour en usine, ça serait pire. Là, je choisis mes clients. Donc, il y a, je dirais, tout un débat actuellement sur la question de l'aliénation. Voilà.
Elle dit quoi ? Elle dit que c'est un choix d'être prostituée ?
Oui, pour ce qui la concerne.
Pour ce qui
oui.
la concerne. Oui. Un choix...
Alors, j'avoue que moi, ça ébranle très profondément mes certitudes, parce que...
De difficultés personnelles, peut-être de relation avec un compagnon qui l'exploite. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un contexte à ce choix,
oui.
qui fait qu'un choix peut-être un peu contraint.
Il y a des chiffres qui sont terribles, qui prouvent quand même que... Je ne me souviens plus, mais enfin, du style 80% des prostituées ont été des enfants abusés.
Oui.
Enfants abusés. C'est-à-dire que le clivage entre ma tête et mon corps, c'est un clivage qui a été imposé, parce que la seule façon de s'en sortir du viol, c'est...
Mais je trouve que Virginie Despentes a brisé cette image romantique de la prostituée. Elle a dit de quoi il s'agissait concrètement. Elle a eu le courage de le dire. Et je pense que la littérature a aussi brisé une image qu'elle-même avait produite dans le film, etc., dans la période précédente.
Et à propos du film de Virginie Despentes, il y a un tabou qu'elle a renoncé à transgresser dans le film. Elle a retiré un épisode qui était dans l'écrit.
Dans Baise-moi ?
Oui, tout à fait. Elle a retiré cet épisode au cours duquel, je crois, les deux fuyardes tuent un enfant.
Ah oui,
et la question de l'infanticide, en fait, c'est aussi un des grands interdits.
C'était le bout de leur parcours de dérive criminelle. Oui. Il y a un enfant qui est tué. Je crois que c'est... Moi, je l'ai lu, Je crois qu'elle a peut-être édulcoré, mais l'infanticide existe et la fin de leur périple criminel. Oui. On va peut-être en rester là. Merci beaucoup, Christine Baron. Il est temps maintenant d'entendre la chronique de Sandra Travers de Foltrier en droit et littérature.
Merci Denis, je vais parler aujourd'hui de Perpétuité de Guillaume Poix. C'est un livre qui est publié par les éditions Verticales. Alors, droit et littérature, comme on l'a vu, c'est un regard porté sur les modes de présence du droit, que ce dernier s'incarne dans des institutions ou dans des pratiques articulées par la croyance en leur normativité. En tout cas, ça porte au visible des éprouvés étrangers aux logiques classificatoires auxquelles traditionnellement on rapporte le droit. Ces éprouvés, qu'ils relèvent du témoignage ou de la fiction, manifestés par les interactions langagières mises en lumière par les écrivains, invitent à la réflexion morale, là où, je m'expliquerai sur le mot moral, là où tradition, évidence institutionnelle, nouage pratique opposent une surdité aux quelques questionnements susceptibles d'entraîner des amendements à l'état de fait muet en état de droit. Guillaume Poix, dans son dernier livre, Perpétuité donc, s'empare de la question de la prison, à partir, non pas du prisonnier, mais du personnel pénitentiaire. Un personnel dont il va peu à peu dessiner l'enfermement, comme si à l'image de ceux qu'il a pour mission de garder, il était un corps et un esprit prisonnier. Contamination et désappartenance structurent ce texte. Donc effectivement, ce livre est l'histoire d'une contamination. Et comme la victime d'un vampire devient vampire à son tour, le geôlier dévoré par l'enfermement dont il est le garant devient un enfermé, un prisonnier, un mort-vivant parmi les morts-vivants. L'auteur, en s'emparant du parler de ses gardiens, comme Sonia Cambretto s'était emparée à travers des éclats de vie de la langue orpheline de jeunes filles délinquantes, Guillaume Poix compose un tissu testimonial, confère à la fiction un poids de réalité. Le procédé littéraire, on l'aura compris, tient de la collecte de réalité, comme on parle de collection de curiosités. Il l'avait déjà fait dans sa pièce Léviathan, il l'avait mis en œuvre aussi, où il s'agissait là de mettre en scène justement ses comparutions immédiates et où il avait collecté, compilé en fait un certain nombre d'extraits de ses comparutions immédiates. Mais ici, dans Perpétuité, ça n'est pas que ça. L'ouvrage relève aussi d'une mise en récit de nature fictionnelle. En effet, Perpétuité raconte l'histoire de personnages identifiés par leur nom, leur profession, leur affectivité, leur situation matrimoniale, leur orientation sexuelle, leur âge, bref, des personnages. En creux, pourtant, émiettée, la vie gelée des détenus dessine une parenté entre geôlier et prisonnier. Parce qu'ils sont tous soumis à une forme de déshumanisation, à une sorte de déni d'eux-mêmes. Toute personne entrant en prison, que ce soit pour contrôler, soigner, garder, réparer, éprouvera sous une forme ou une autre, je cite, un lancinant mal de ventre qui lui fera se jurer, je cite, le soir même qu'elle n'y remettrait plus les pieds. Et pourtant, les gens y remettent les pieds, les médecins reviennent, etc. Donc la personne autonome et isolée, définissable par l'unicité de son être, est un horizon philosophique et juridique qui a permis de fonder la responsabilité individuelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette croyance, cependant, elle est bousculée par la sociologie, par la psychanalyse, par l'histoire et bien d'autres disciplines qui mettent en doute, cette autonomie. Et la plupart des auteurs, finalement, travaillent ces conditions qui permettent à un individu d'aboutir à ce qu'il est, et notamment en prison. La reconnaissance d'un conditionnement à l'œuvre dans toute existence fait de chacun, d'une certaine façon, le contexte, pas complètement, enfin le produit, pardon, mais pas complètement, d'un contexte, de conditions de vie qui contaminent sa singularité. Et donc c'est cette idée de contamination qui est ici à l'œuvre, c'est-à-dire que les conditions de travail, le lieu de travail, contaminent le geôlier. Et donc, Guillaume Poix interroge la prison à partir des effets de l'existence de celle-ci sur ceux-là même qui concourent à son maintien matériel. Donc là, il ne va pas s'interroger sur ce que ça fait aux prisonniers, mais il va en tirer naturellement du réel à partir des geôliers. C'est donc au spectacle d'une dépersonnalisation des geôliers, à l'anatomie d'une perte d'individuation de ces derniers, que l'auteur nous invite. Dépersonnalisation, désindividuation, en fait déshumanisation active dans les propos des uns et des autres qui aboutit à une désappartenance. Parce qu'un mouvement profond de désappartenance que murs, horaires, bruits, côtoiements permettent traverse et les prisonniers et les gardiens, l'auteur enregistre le glissement qui s'opère en tous. C'est parce qu'il y a ce mouvement de contamination que ça opère en tous. Chacun perd pied sous le joug impersonnel de l'organisation. Et le livre est très... Enfin, on sent charnellement le poids des horaires, le poids des rites, en quelque sorte. Une désappartenance est à l'œuvre, dont on peut suivre les progrès dans la langue des fêtes dont le personnel pénitentiaire use. Leurs phrases, mitées d'américains publicitaires, soutiennent et achèvent le portrait d'hommes et de femmes colonisés parce qu'ils les dominent et qu'ils n'interrogent pas. Qu'il s'agisse de la puissance d'anciens vainqueurs du siècle dernier, permise par l'hégémonie cinématographique et audiovisuelle, cas du cinéma américain avec la langue américaine, ou de la puissance d'un système vécu comme une évidence du fait de croyances partagées, l'auteur dénonce l'empreinte sur une société, à travers ses effets délétères sur la vie des geôliers, de l'enfermement institutionnalisé comme seule réponse à la violation de la loi. L'usure, je cite, « l'usure et le risque, c'est deux faces de l'expérience qui parfois se conjuguent et font de soi pire qu'un novice ». Lieu d'enfermement, lieu de soins, lieu de détention générant le besoin de soins, la prison est aussi pour le personnel un lieu de défiguration. Je cite « À force de vivre sous la pression des coursives, elle était devenue brutale et maltraitante et s'en rendait tout à fait compte, houspillant les détenus, ne perdant jamais une occasion de les emmerder et de contrarier leur quotidien, se plaisant à outrepasser les ordres et les pouvoirs, ne rechignant plus à humilier ou vexer pour se venger d'être là, d'être à leur côté, d'être qui elle est. Les punir au fond, de ne pas savoir être une autre. » Fin de citation. Et cette désappartenance est palpable au cœur même du sentiment d'existence groupale voulu par des circonstances d'urgence. Je cite « On est devenu plus que soi, plus grand que son petit ados, plus vaste que sa graisse. » C'est-à-dire des personnalisations qui fait que on se désappartient. Cette démonstration nourrie au contact de la réalité carcérale à laquelle l'auteur s'est familiarisé à l'occasion de semaines passées à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier, entre novembre 21 et juin 23, s'enracine dans un réel revendiqué par l'auteur. La justice, c'est ce qui gravite autour du concept de justice comme autour de l'institution, conduit les écrivains bien souvent et de tout temps à ancrer leur œuvre dans le terreau du réel. Et en cela, c'est une continuité. Au point qu'il est difficile d'attribuer les paroles aux personnages plutôt qu'aux personnes. L'enjeu est moral, non au sens de moralisme normé, mais au sens d'un comment vivre en pratique. Il s'agit d'insister sur l'ambivalence sociale, sur l'indisponibilité de la dignité humaine, sans impérialisme charitable ou bienveillance aux allures de patronage sans Dieu. Sans offrir de solution, sans horizon autre qu'une exigence impossible à satisfaire. L'interdépendance entre les personnes humaines ici mises en lumière constitue un rapport au monde qui fait système sans cependant être visible autrement que par ses effets contagieux qui circulent entre détenus et geôliers. Point d'après-coup de la conscience, juste un lieu perdu, celui du propre de l'humanité, celui-là même que l'on a tenté de préserver des prétentions de l'État et dont la littérature, constitutive ou héritière d'une image inductive de ressemblance à transmettre, poursuit la définition à travers des contours peuplés de rehauts. Perpétuité, c'est une œuvre littéraire vivante de son sujet, qui tient du documentaire, des témoignages, de l'engagement, de l'enquête photographique. Elle met à l'honneur un dialogisme auquel le lecteur ne peut rester étranger.
Malgré tout, le sentiment qu'on a de ce que dit Guillaume Poix, c'est tout de même contamination, vie gelée du détenu, déshumanisation, conditions de travail, on pourrait dire, déplorables parfois.
D'ailleurs, il en parle comme de prolétaire, de la justice.
Défiguration. Et de notre côté, je ne sais pas comment les surveillants...
Mais il ne donne pas de solution. Il n'est pas en train de nous dire qu'il faut mettre tous les gens dehors. Il ne donne pas de solution.
Mais en même temps, il faut quand même considérer que la réforme pénitentiaire a tenté de donner aux surveillants un statut valoriser, à simplifier leur uniforme, la casquette, etc. Bon, à tenter effectivement de les dignifier malgré les conditions décrites par...
Mais c'est le poids de ces conditions. C'est-à-dire qu'effectivement, statutairement, il peut y avoir quelque chose qui symboliquement les élève, mais la contamination, elle est physique.
Ouais. Non, ce que je veux dire, qu'il y a une représentation plutôt négative dans ce qu'il dit. Et que le droit pénitentiaire, en l'occurrence, tente cette fois de donner une représentation qui restitue une dignité à la fonction de surveillant.
Oui. Ce qui est vrai, c'est que je pense que sa démarche est éminemment critique. Alors je dis qu'il il ne s'embarrasse pas de solutions proposées, mais quand on lit Léviathan, la pièce qui a été montée récemment, à l'Odéon, à Berthier, il s'agit d'une critique des comparutions immédiates. Donc on peut dire que Guillaume Poix, dans son ensemble, est très critique. On est là dans un discours critique. Mais disons que je tenais quand même à...
Il s'appuie sur une démarche d'enquête quand même.
Voilà, ouais. C'est-à-dire que sur un travail, le travail littéraire est intéressant parce qu'on est vraiment dans une espèce de... On est incapable de démêler ce qui relève de la remontée de l'enquête, ce qui relève de la création littéraire, ce qui... Pourtant, on est dans du littéraire.
Il manque toujours dans ces démarches critiques l'effort de l'institution,
oui, bien sûr,
qui est réel, de la justice, de la pénitentiaire ou d'autres mondes institutionnels. C'est une démarche un peu foucauldienne.
C'est pour ça que je saluais le travail d'un NL, le travail d'un Jean-Paul Rouenet.
Qui rend hommage la part de noblesse, entre guillemets, de l'institution qui ne se laisse pas aller à se dégrader et qui tente de se réformer en permanence.
Mais bon, le parti pris, c'était de ne pas faire silence quand même sur les aspects critiques. Voilà.
Bien, merci Sandra, merci Christine Baron. Je rappelle l'ouvrage que nous avons évoqué aujourd'hui, Droit de femme, femme de droit au prisme du récit, littérature, cinéma et série aux éditions Le Lys Bleu en 2025. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radio.amicus.curiae à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée et réalisée par Leobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.